Aujourd'hui, lundi 9 février, c'est la journée internationale de l'épilepsie, Isabelle Duché.
Et cette journée internationale est l'occasion de répondre aux idées reçues sur l'épilepsie. Nous parlons bien de la deuxième maladie neurologique la plus répandue en France, après la migraine. Et l'épilepsie touche pour moitié des patients de moins de 10 ans, c'est dire son importance. Pour nous parler de toutes ces idées reçues et de cette maladie, nous sommes avec Nancy Cazorla. Bonjour.
Bonjour, je vous remercie en fait de nous avoir donné la possibilité en fait de nous exprimer autant au nom d'Épilepsie France, pour laquelle je suis correspondante départementale pour la Haute-Garonne.
Voilà, j'allais justement vous présenter, vous l'avez très bien fait, je vous remercie beaucoup. Comment, Nancy Cazorla, définissez-vous l'épilepsie ?
Alors l'épilepsie, c'est une variation de l'activité électrique dans le cerveau. Alors dit comme ça, ça semble un petit peu étrange. En fait, ça va être un moment où notre cerveau va réagir de manière dite proportionnée à un événement extérieur ou intérieur et qui va provoquer une crise d'épilepsie. Cette crise d'épilepsie, elle peut avoir plusieurs manifestations. Des manifestations qu'on va qualifier d'absence. La personne perd le contact avec l'environnement. Cette absence peut même entraîner en fait une chute, s'il y a une perte totale en fait de l'activité, ou des crises dites toniques, c'est-à-dire qu'il va y avoir des soubresauts, la personne va soit convulser, soit des myoclonies, une partie de son corps va bouger.
Et quand vous parlez de ces absences, en fait, c'est là que l'épilepsie est difficile à repérer. C'est parce qu'en fait, par exemple, un enfant qui est en classe peut avoir une crise d'épilepsie qui n'est pas visible parce qu'il a juste cette absence. Et puis après, hop, il revient et il essaye de reprendre le cours de la leçon. Et c'est ça aussi qui peut être difficile à discerner.
Alors tout à fait. En fait, ce qui caractérise l'épilepsie, c'est son côté pluriel, multiforme. Son côté aussi imprévisible. On ne peut pas prévoir les crises d'épilepsie. Il n'y a que dans de très très rares cas que les gens les sentent venir. Donc en fait, on n'est pas forcément en capacité de documenter réellement le fait qu'il y ait une crise d'épilepsie. L'imprévisibilité, l'absence en fait de régularité, la difficulté à déterminer les causes font qu'il est excessivement difficile de poser un diagnostic et qu'on peut dans certains cas passer à côté du fait que c'est une crise d'épilepsie. Vous avez évoqué les absences, effectivement, les absences de courte durée ont tendance parfois à ne pas être vu, mais ça peut être également les myoclonies, ce que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire des tremblements incontrôlés d'une partie du corps, ça peut être juste les paupières, par exemple.
Ah oui, d'accord. Et donc, si vous dites que c'est difficile à discerner, est-ce que les patients qui sont atteints d'épilepsie, parfois, suivent un parcours un peu chaotique parce que justement, on n'a pas mis le nom de l'épilepsie sur leurs troubles ?
Oui, tout à fait, en fait. Ce qui caractérise également l'épilepsie, en dehors en fait de son caractère pluriel, c'est vraiment la difficulté de diagnostic dans certains cas. On parle d'errance en matière de diagnostic, un petit peu moins pour les enfants, parce que en fait, très rapidement, en fait, on va avoir des conséquences de l'épilepsie qui vont en fait orienter les diagnostics, mais plus chez les adultes, où on va parfois en fait ne pas forcément savoir exactement que ce qui s'est passé est une crise d'épilepsie.
Oui, c'est ça. Est-ce que une crise d'épilepsie peut avoir un lien avec un usage immodéré des écrans ?
Alors, tout à fait.
Ah oui.
Tout à fait. Après, en fait, il y a plusieurs en fait types de causes recensées à ce jour pour l'épilepsie. Mm-hmm. Toutes ne sont pas recensées, hein. C'est pour ça que je mets une petite réserve. Dans les causes les plus fréquentes qui sont documentées, on va avoir tout ce qui relève d'une lésion cérébrale, donc un choc traumatique, une suite d'opérations, un cancer également, ou une tumeur plus exactement, excusez-moi, le cancer qui est inapproprié. On peut avoir des infections bactériologiennes, par exemple des suites de méningites, de maladies en fait neurologiques. Et on peut avoir des maladies génétiques dont la manifestation va être l'épilepsie. Et dans certains cas, un nombre qui reste important quand même, personne n'arrive à comprendre pourquoi il y a de l'épilepsie.
Ah oui, d'accord. On n'a pas forcément de raison. D'accord. Quand vous parlez d'origine génétique, ça peut faire peur parce qu'on se dit, si mon père est épileptique, est-ce que moi je le serais ? Est-ce que ça veut dire que l'épilepsie est une maladie héréditaire ?
Non, pas forcément, en fait.
Pas forcément.
Comme pour toutes les maladies en fait, génétiques, de toute façon, en fait, la transmission n'est pas systématique en tant que telle. Par contre, il y a des syndromes en fait, pour lesquels on sait pertinemment qu'ils vont provoquer de l'épilepsie chez leurs porteurs.
D'accord. Alors, vous avez parlé au début de cet entretien, Nancy Cazorla, de ces absences, hein, de ces crises qui pouvaient être à peine visibles, un tout petit tremblement. Vous avez parlé de tremblement de paupières, mais c'est vrai que l'image qu'on a de l'épilepsie, c'est ces crises où le patient est par terre et se roule par terre. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire justement pour cette personne ?
Oui, tout à fait. Dans l'imaginaire collectif, vraiment, l'épilepsie, c'est caractérisé par le grand mal. Ce qu'on appelle le grand mal, ce que vous avez décrit, c'est la convulsion, en tant que telle. Je dirais que quel que soit en fait le cas et le type d'épilepsie ou de crise épileptique en fait à laquelle vous êtes confronté, le premier en fait réflexe, c'est de mettre en sécurité la personne.
C'est-à-dire
le cas, c'est-à-dire une absence ou une convulsion. L'absence, en fait, on fait en sorte que la personne ne se blesse pas si elle doit tomber. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que la personne peut être fixe, immobile, façon statue. On la fait asseoir ou on l'allonge par terre parce que si ça continue, en fait, elle va s'effondrer.
D'accord.
Donc, il peut y avoir une chute au niveau de la tête.
Donc on protège.
Dans le cadre on protège. C'est ce que vous dites, on met en sécurité. C'est la même chose pour les crises tonico-cloniques. Pour les crises tonico-cloniques, la convulsion que vous avez décrite en fait précédemment, qu'est-ce qu'on va faire ? La personne, la plupart du temps, en fait, elle va tomber sur la crise tonico-clonique. On n'essaye surtout pas de la contenir. Vous ne serez pas en capacité de le faire de toute façon. Par contre, on va sécuriser en fait l'endroit où elle est. Donc, on enlève en fait les objets autour avec lesquels elle pourrait se faire mal, sur lesquels elle pourrait se cogner. Si en fait elle est à côté d'un endroit où elle risque de se cogner la tête notamment, on la décale sur le sol. On met quelque chose sous sa tête éventuellement. Vous prenez une veste, un pull, de façon toujours pareille à éviter les coups au niveau de la tête. Vous lui parlez. Éventuellement.
Ah oui.
Certaines personnes entendent, d'autres pas, ça dépend vraiment. On ne fait rien pour la contenir pendant sa crise, surtout. Vous ne la tenez pas. En fait, tout ce qui est fait ne relève pas d'une conscience en tant que telle. On est vraiment sur de l'activité en fait, électrique, sur des gestes des muscles en tant que tels.
Et pourquoi il ne faut pas la tenir ? Y a un risque.
Oui, parce que vous risquez de lui faire mal ou de vous faire
D'accord.
mal.
Tout simplement.
Ce que j'ai oublié de vous dire et qui est aussi excessivement important, il faut documenter la crise. Ça veut dire en fait que vous mettez un chrono.
Ah oui.
Un chronomètre dès le début de la crise. Sur le téléphone, on en a tous.
Oui.
Pour en fait savoir et être en capacité de dire combien de temps ça a duré. Une crise d'épilepsie, même si ça dure 2 minutes, c'est excessivement impressionnant.
Oui,
surtout,
c'est vrai.
Et dernier point, le plus important, parce que dans l'imaginaire collectif, on se dit en fait qu'il faut absolument éviter que la personne ne s'étouffe dans le cadre d'une crise d'épilepsie. C'est totalement faux.
Ah bah oui, on dit toujours qu'il faut tenir la langue.
Non, vous ne méritez rien dans la langue, dans la bouche de la personne. Surtout, ne touchez pas. Si vous mettez quelque chose, vous risquez en fait de lui faire se casser les dents ou en fait de causer d'autres problèmes. Surtout, vous n'introduisez rien dans la bouche de la personne.
Et il risque pas d'avaler sa langue alors ?
Non, il ne risque pas d'avaler sa langue. Le risque d'étouffement est réel dans le cadre de l'épilepsie, mais c'est pas par rapport à la langue. C'est plus par rapport au fait d'avoir de la nourriture ou de l'eau en fait dans la bouche au moment où la crise survient. Mais la langue, non, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là.
Bah voilà, une belle idée reçue qui est démontée.
Oui.
Là, hein.
Oui. Et une fois que la crise est calmée, vous mettez la personne en position latérale de sécurité.
D'accord.
En attendant que les secours arrivent. Vous aurez sûrement appelé les secours entre-temps.
Oui, parce que vous dites qu'il faut chronométrer la crise. Donc 2 minutes de crise, c'est extrêmement impressionnant. Est-ce qu'il faut nécessairement appeler les secours à chaque crise ?
Alors, ça dépend en fait, c'est-à-dire, je dirais, ça dépend de la régularité. Si la personne, en fait, est une personne qui fait des crises régulières, je dirais que malheureusement, en fait, il y a une capacité de gestion de la crise qui se met en place. Dans certains autres, enfin, c'est-à-dire qu'on ne va appeler les secours qu'au bout d'un certain moment. Ces personnes-là, la plupart du temps, ont des médicaments pour arrêter la crise qui doivent leur être administrés en fonction des médicaments sous différentes formes. Et en fait, on a des seuils qui sont déterminés par les pédiatres et neuropédiatres pour savoir à quel moment on administre les médicaments, à quel moment on appelle les urgences. C'est pour ça qu'il est important en fait, de chronométrer.
D'accord.
Si la personne n'a jamais fait de crise d'épilepsie connue en tant que telle, moi je vous conseille d'appeler, en fait, d'appeler le SAMU dès le départ,
oui,
pour que
oui,
la personne soit référencée.
C'est plus rassurant aussi.
Voilà. Vous lancez le chrono, vous appelez et vous voyez ce qui se passe.
D'accord. Nancy Cazorla, à partir de, enfin, en quoi l'épilepsie impacte l'intelligence et les apprentissages ?
Alors l'épilepsie, en fait, c'est un impact excessivement important sur tous les apprentissages et sur la mémoire. Alors c'est particulièrement flagrant chez les enfants, c'est-à-dire qu'on va constater en fait que les crises d'épilepsie peuvent totalement remettre en cause la capacité de mémorisation et d'acquisition des savoirs.
Ah oui, c'est...
En gros, ça ressemble un tout petit peu à un reset.
Et après, on peut reprendre les apprentissages et ça revient.
Alors, ça dépend. Ça dépend vraiment des individus, des types de crises, de l'importance de ces crises. Ce qu'on constate, c'est que suite à une crise d'épilepsie, en fait, généralisée, souvent, la personne est totalement désorganisée. Elle est désorganisée, apathique, elle a besoin de dormir, elle a du mal en fait à retrouver plus ou moins ses esprits. Et ce qu'on peut constater notamment chez certains enfants, c'est qu'il y a certains apprentissages en fait qui vont être altérés.
D'accord.
Pour lesquels il faut repartir, donc il faut recommencer.
Donc voilà, il faut faire preuve de patience pour tous ces apprentissages. Vous-même, vous avez un enfant qui est épileptique. Comment se passe son quotidien à l'école, le sport ? Dites-nous un petit peu.
Alors, quand on est en fait épileptique, on est aussi en capacité de faire plein de choses. Par contre, il faut les adapter.
D'accord.
C'est-à-dire que, en fonction en fait du niveau en fait d'épilepsie, on va avoir des conséquences sur la scolarisation. Donc une scolarisation qui va prendre parfois plus de temps, qui nécessitera d'être adaptée. Et c'est la même chose pour en fait les sports. Il existe d'ailleurs un certain nombre en fait de sports dits adaptés, tout ce qu'on relève du handisport, qui permettent de pratiquer la plupart en fait des activités sportives.
Est-ce que par exemple un sport collectif c'est bénéfique pour un malade de l'épilepsie?
Un sport collectif est bénéfique pour toute personne ouais. malade. En fait, je dirais le sport en tant que tel, c'est ça doit être adapté. Ça doit être surveillé, mais l'activité physique, en fait, est une bonne chose. Ce qu'il faut, en fait, surtout éviter dans le cadre de l'épilepsie, c'est d'isoler, en fait, les gens. Ouais. L'épilepsie, comme je le disais, c'est une maladie, en fait, qui est connotée négativement, qui suscite beaucoup d'a priori chez les gens et qui entraîne souvent, en fait, un isolement, une rupture du lien social, des difficultés dans les apprentissages, dans l'insertion en fait sociale. Et donc il est important aussi de lutter contre ça, de façon à ce que les personnes épileptiques ne soient pas définies que par leur maladie, mais qu'elles aient aussi la capacité de s'insérer, d'œuvrer en fait, et de vivre le mieux qu'elles peuvent avec leur maladie dans la société.
Oui. Et peut-être les auditeurs de Radio Présence apercevront-ils ce soir une lumière violette sur la façade de leur mairie ou d'autres bâtiments emblématiques de leur commune, parce que c'est une façon de montrer leur mobilisation en faveur des malades d'épilepsie et de leurs proches. Et c'est aussi ce que vous faites ce matin avec nous au micro de Radio Présence pour sensibiliser à l'épilepsie et puis pour montrer que ces personnes ne sont pas seulement ne sont pas seulement définies par rapport à leur maladie, si on peut dire les choses comme ça.
Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs en fait l'objet hein, de notre association Épilepsie France, qui est une association, bon, loi 1901 reconnue d'utilité publique, qui est composée de patients, de personnes souffrant d'épilepsie et de proches de personnes souffrant d'épilepsie, avec une déclinaison en fait nationale. Alors ça veut dire quoi une déclinaison nationale ? C'est que on a eu la chance d'arriver à trouver des bénévoles qui ont accepté en fait de s'engager justement pour informer, essayer de rompre l'isolement sur 88 zones sur le territoire sur les territoires français. Donc l'épilepsie France a aussi cette fonction-là et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des besoins d'informations à aller sur notre site qui est epilepsiefrance.com sur lequel nous mettons à disposition en fait, du grand public des notices d'information, des éléments, pour en fait essayer de rendre le quotidien un peu plus facile.
Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site epilepsie.com. Merci beaucoup Nancy Cazorla. Je rappelle que vous êtes la correspondante départementale de l'association Épilepsie France. Vous avez fait le point ce matin sur les idées reçues à propos de l'épilepsie. C'était votre grand entretien sur Radio Présence. Un grand merci.
Merci à vous.